dissonances.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Hula sur Radio Sainte-Afrique.
Pendant quelques temps, on a dû faire 3 ou 4 émissions par semaine. Alors, ça, invariablement, il y avait un indicatif, c'était Radio Pirate. Alors, je me souviens plus quel groupe chantait ça, mais je me souviens qu'à cette époque-là, on l'entendait partout, ce truc. Donc, on ouvrait nos émissions, qui devaient durer une heure ou deux, tu vois. On ouvrait nos émissions avec Radio Pirate.
Il est connu comme l'un des premiers initiateurs des radios libres en France, à l'époque où elles étaient illégales, où elles étaient pirates. Mais Alain Guyot n'est pas qu'un troublion radiophonique, il est bien davantage. Pendant une heure, Dissonance va vous donner à l'entendre et à découvrir son parcours dont le socle est son éducation familiale.
Je me souviens d'un petit cadre au-dessus de mon lit d'enfant où il était écrit « C'est en cherchant l'impossible que l'homme a toujours réalisé le possible. Ceux qui se sont sagement limités à ce qui leur paraissait possible » n'ont jamais avancé d'un seul pas.
Pour parler d'Alain Guyot, il faut se replonger dans la Commune de Paris en 1871, du côté de Montmartre, faire un saut en Normandie du côté de Rouen en 1968, y croiser Cohn Bendit et Léo Campion, puis filer en Algérie pour y vivre les derniers mois de la guerre et y croiser le destin de ces soldats, non pas morts pour, mais par la France, puis venir en Aveyron sur les ondes de Radio Pirate, l'ancêtre de Radio Sainte-Afrique. C'est le parcours d'un homme, Alain Guyot, parcours teinté d'humanisme, de fraternité et de révolte permanente, dans lequel Dissonance vous propose de vous immerger avec l'intéressé lui-même, bien entendu. Dissonance avec Alain Guyot.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue. Les anarchistes, ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils ils sont toujours debout, les anarchistes.
Dissonance avec Alain Guyot. Il y a 150 ans, un de tes ancêtres se trouvait à Paris et il défendait la Commune de Paris. C'était en 1871.
Ben, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il défendait la Commune de Paris, mais c'est vrai que mon arrière-grand-père avait été sollicité par un de ses copains qui se trouvait être le maire de la Commune de Montmartre. Il m'arrive de narrer l'histoire parce que ça participe de ce qui a constitué, de ce qui caractérise, eh ben le fait que je suis ce que je suis. C'est vrai que j'ai la chance d'être tombé dans une marmite qui se trouve être, si tu veux, le creuset d'une pensée libertaire. Alors c'est une pensée qui présente une caractéristique un petit peu intellectuel, indépendamment du fait que elle était aussi meublée par une idée humaniste, tolérante, tu vois, qui remonte, qui va puiser sa source, je dis sans que j'ai de preuves écrites, mais simplement la conséquence de tout ce qu'a fait la transmission dans ma famille à partir de la Révolution française, enfin un petit peu plus tard, parce que
1793,
parce que il est clair que tous ces gens-là, si tu veux, sont des gens qui ont bénéficié du mouvement babouviste, c'est-à-dire que tu retrouves Babeuf, Sylvain Maréchal, Buonarroti, etc., etc. Autant de gens dont j'ai entendu parler. J'ai entendu parler parce que de mes ancêtres, que bien sûr je ne connais pas, ils n'ont jamais connu, quoi, ont très très certainement fréquenté ces milieux. Indépendamment de ce qui m'a été raconté avec un petit peu plus de précision et qui est là, la présence de mon arrière-grand-père, donc, au moment de la commune à Montmartre. Et c'est vrai que cet arrière-grand-père a non seulement participé à la vie du mouvement libertaire pendant tout le 19e, enfin, une partie du 19e siècle, mais en plus, il a fait partie de la cohorte bakouninienne, ça veut dire qu'il a fait partie des cercles proches de gens comme Michel Bakounine. Alors ça, j'en ai entendu parler aussi. C'est le gros problème avec tous ces gens-là, que ça soit mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père et mon grand-père, quoi. C'est des gens qui, effectivement, ne souhaitant pas passer à la postérité, ne cherchaient pas à avoir leur nom inscrit sur un monument ou sur la place publique, ou simplement laisser leur nom dans une rue, tu vois. Ça veut dire que, hormis dans des conversations ou des monologues qui m'étaient adressés à travers peut-être pas des conseils si tu veux, mais un certain nombre d'explications, quoi, m'ont fourni des renseignements sans plus d'importance que le reste sur la réalité de ce qui a été leur vie, leurs ancêtres, etc., etc., etc. En plus, ces gens-là étaient effectivement des libertaires. Ils avaient plutôt tendance à être des subversifs. Ça veut dire que j'ai souvent entendu parler de subversion, alors que j'ai rarement entendu parler de militantisme. Donc j'ai été amené à faire un certain nombre de nuances. J'ajoute que pour l'essentiel de ces gens que j'ai eu l'occasion de connaître ou de croiser, il y avait énormément de libertaires avec, il faut le dire, quoi, avec 90% de francs-maçons. Voilà. Donc, il aurait été étonnant, si tu veux, que j'échappe à la contagion.
Dissonance avec Alain Guyot.
Je suis né donc en 42, mais j'ai été élevé par mes grands-parents parce que, au moment de la guerre, mes parents, sous une forme particulière, quoi, avaient été très récalcitrants, et mon père, en tant que réfractaire, était parti. Donc je suis né dans la maison de mon grand-père, dans la région de Rouen, en fait. Mon grand-père était ingénieur des arts et métiers. Mon arrière-grand-père était aussi un ingénieur. Je sais plus exactement de quelle école il sortait. Je crois que c'était de l'école polytechnique, mais je suis pas sûr, hein, parce que là encore, c'était des gens qui étaient d'une discrétion parfaite. Bon, la seule chose que je peux affirmer, c'est que effectivement, c'était tous des libertaires humanistes. J'ajouterais, à toutes fins utiles, que parmi mes géniteurs, il y avait d'une part mon côté paternel et du côté maternel. Donc mon grand-père, le grand-père dont je parle, c'est du côté maternel. Mon grand-père paternel, lui, était plutôt un radical, mais pas un radical, extrémiste, si tu veux. Un radical qui avait déjà un certain niveau de conscience, c'est-à-dire que il se serait facilement laissé aller à une critique acerbe du monde des communistes, par exemple, qu'il avait quelques difficultés à supporter en peinture comme à table. Tu vois ? Alors mon père, lui, était un individu assez particulier, discret. C'est un homme qui était tellement épris de liberté que il a jamais réussi à avoir une profession de sédentaire. Ça veut dire que toute sa vie, il a été, on dira, sur les routes. C'est-à-dire qu'il était principalement chauffeur routier avec des épisodes extraordinaires. Donc pendant des années et des années, il faisait les caravanes du Tour de France. C'est là où j'ai été amené à connaître une pléiade d'artistes. Et ma mère, qui était une femme discrète et qui tenait une toute petite épicerie, comme tu dirais, le bled à Montleur, où il y a, je sais pas moi, 2 ou 3 000 personnes. C'est un endroit magique dans lequel tu pouvais acheter du pain d'épices à la tranche, et puis tu pouvais aussi acheter un litre de lait à la tireuse ou une bouteille de cidre à la tireuse. Voilà une partie de ma jeunesse. Et moi, en ce qui me concerne, donc né dans la maison de mes grands-parents, où il y avait déjà une installation avec des capteurs solaires et une pompe à chaleur qui avait été installée par mon grand-père, et j'avais ma petite chambre. Et c'est là que commence le désastre de ma vie, parce que dans cette chambre, quoi, j'avais eu le droit à des assises, on appellera ça des assises culturelles. C'est un moyen élégant de faire savoir que tout petit, j'ai baigné dans un bain de culture, hein, c'est-à-dire que il y avait des petits panneaux sur lesquels il m'était précisé que même si on n'était pas d'accord avec ce qui était dit, il était nécessaire qu'on fasse en sorte que ça puisse être dit. Tu vois, des trucs comme ça, il y en a eu, mais puis il y en avait d'autres, si tu veux. Alors, ce qui m'avait le plus marqué, c'était une phrase très très raccourcie qui disait « Le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience ». Et alors ça, je l'ai entendu je ne sais combien de fois, je l'ai lu je ne sais combien de fois. J'ajoute aujourd'hui, avec le recul, que les conceptions métaphysiques étant du domaine de l'appréciation individuelle, de manière à ce que ça soit clair, moi, de mon côté, je me refuse à toute affirmation dogmatique et je conserve la liberté de conscience.
Je veux rire et lancer dans les salles de concert, chanter le poing levé et piquer les oreilles. Je veux marcher librement et gueuler dans la rue quand je suis pas d'accord ou même quand j'ai trop bu. Je fais de mal à personne quand j'écris mort au con. dans les chiottes du métro, sur les murs d'une prison. Je fais du tort à qui quand j'embrasse ma gonzesse au milieu de la foule dans un bar débordant d'ivresse. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. Pas bien, je voudrais être sourd que d'entendre la haine enflammer les discours. Aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui j'ai les boules, fatigué de la violence, de voir le sang qui coule. Ce soir je suis malheureux, ce soir j'ai une pensée aux civils innocents, aux familles déchirées. Moi je suis pas patriote, je ne suis qu'un chanteur qui aligne les notes pour gueuler et condamner l'horreur. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. J'aime traîner mes savates dans les salles de ciné et fumer des pétards pour changer les idées. J'aime rigoler de tout, raconter des histoires, discuter sans tabou sur le bord d'un comptoir. J'ai pas besoin de Dieu et je maudis les maîtres qui salissent la mémoire à coups de mitraillette. Moi je suis né athée et si t'es pas content, j'en ai rien à carrer, c'est ma vie de mécréant. Je suis libre et je t'emmerde. Je suis libre et je t'emmerde. J'ai attrapé ma plume et un bout de papier pour gerber mon dégoût, mon envie de chialer. Tout ce que j'ai dans la tronche, je le déballe ici et je crache à la gueule de tous les fanatiques. C'est vrai que ma chanson frappe à terre les raclures, que mes rimes à la con soigneront pas les blessures. Je vous la chante quand même au nom de la liberté, que les coups de crayon soient plus forts que les coups de canon. Je suis libre et je t'emmerde. 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 Je suis libre et je t'emmerde.
Dissonance avec Alain Guyot.
Quand j'étais gosse à l'école, puisqu'on a été parlé de mes études, je me souviens très bien que j'étais gamin, je savais pas, je sais pas. C'est une fois de plus pour réénoncer une partie de ce qui a caractérisé, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Alors je vais y aller sur la pointe des pieds en disant que c'est peut-être pas le terme le mieux choisi, mais mon éducation, tu comprends? Voilà. C'est-à-dire, moi, en fait, ma non-éducation. Et je me souviens très bien être un jour rentré de l'école. Alors là aussi, j'avais un instituteur. Et c'était à l'occasion d'un cours. Alors, je sais plus si c'était de l'histoire, de l'instruction civique, qu'importe. Enfin, je rentre à cette époque-là. Ça devait être au moment d'un week-end ou un truc comme ça. Donc, je devais rentrer chez mes grands-parents avec mon cahier. Et sur le cahier, l'instituteur avait marqué ou m'avait fait marquer, je m'en souviens plus non plus. Ta liberté s'arrête ou commence celle des autres. Et moi, tout content. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal, bon, c'est vrai que ça me semblait pas transcendant. J'avais l'impression que il y avait, si tu veux, déjà, je m'étais dit, bon, mais il y a un déficit de nuance, là. Je sais pas pourquoi, mais intuitivement, là, j'exagère, hein, culturellement, on dira, parce que faudrait quand même pas que je me prenne pour un surdoué, tu vois. Mais intuitivement, je m'étais dit, il manque quelque chose. Et quand je suis arrivé et que j'ai présenté mon texte à mon grand-père, il me dit, ah, ouais, mais ça, c'est ton instituteur. J'ai dit, oui, oui. Il me dit, bon, je le connais, c'est un radical socialiste, c'est pas sûr qu'on puisse s'entendre. Mais néanmoins, tu me laisses ton cahier, moi, je vais y écrire. Et donc, Il avait pris mon cahier, il avait écrit, et puis moi je suis reparti. Je n'ai pas besoin de te dire que j'avais d'autres chats à fouetter que de m'occuper de ce qu'avait écrit le grand-père, donc je suis reparti à l'école avec mon cahier. Puis en arrivant là-bas, je l'ai donné à l'instituteur. Puis l'instituteur, alors il a ouvert mon cahier, il a regardé, il m'a dit « Ouh, mais ça c'est pas de toi ». Ah, j'ai dit « Effectivement, c'est pas de moi ». J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a de marqué ?» Il m'a dit « Eh ben ton grand-père a marqué ». Là où nous, on avait marqué « Ta liberté s'arrête ou commence celle des autres », ton grand-père a marqué « Non, monsieur, ta liberté, c'est la liberté des autres ». Et là, je me suis dit « Alain, t'avais raison de te soucier de ce qui caractérise la nuance ».
Et alors, avec tout ce passé, toute cette richesse, comment tu as pu vivre la guerre d'Algérie ?
Ah, pour moi, ça a été un drame. Ça fait partie des choses dont je ne parle jamais. Je me suis retrouvé dans une histoire comme ça parce que il se fait que, bon, tout en étant un enfant du peuple, si tu veux, je fais partie de ces gens qui ont fait des études de très haut niveau. Puisque bon, j'ai peut-être pas eu l'occasion encore d'en parler, mais bon, moi j'ai été à l'école supérieure des télécommunications, c'est-à-dire que...
Et tu es rentré après la guerre d'Algérie, tout ça, là tout,
Non, j'y étais c'était avant. J'étais avant et j'ai fini mes études après la guerre d'Algérie. Et c'est précisément parce que j'étais à un certain niveau d'études que je me suis trouvé coincé, si tu veux, sur l'une des dernières classes appelées, puisque j'étais de la classe 42, donc 62, j'ai connu 62-63, autrement dit, j'ai connu l'indépendance. Ou plutôt, pour être tout à fait clair, la fin des hostilités. C'est certainement la période la plus sombre de mon existence, ce passage autant au service militaire que en Algérie. J'ai vécu ça, si tu veux, mais dramatiquement, entre la stupidité des militaires et la tyrannie. La tyrannie colonialiste avec cette culture de la haine, j'allais dire aux prises avec d'authentiques malades mentaux, hein, parce que moi j'ai croisé les types à Bijar ou ceux d'Ossarès, quoi. Incontestablement, on avait affaire à des gens qui étaient dérangés, quoi. Donc, et puis l'arrêt des hostilités n'a pas fait cesser pour autant les drames de la guerre et on s'est retrouvé avec quand même, malgré la fin des hostilités, avec des morts de part et d'autre, parce que c'est pas parce qu'il y avait eu une indépendance que les conséquences de ce qui caractérisait le conflit, si tu veux, ont cessé. Moi, j'ai connu des gars qui se sont trouvés tués, hein, alors qu'on n'était plus en situation guerrière. Quand je dis il y avait des morts de part et d'autre, je voudrais aussi mettre l'accent sur une séquence que j'ai vécue et qui m'a terriblement bouleversé. J'étais pour une mission plus précisément du côté de Tindouf. Ça c'est complètement paumé dans le désert du Sahara, tout au bout, et on a été amené à atterrir à Tinfouchi. Alors ça dit pas grand chose si tu veux Tinfouchi, parce que ça fait partie des endroits dont on parle peu, quoi. Mais là, je me suis rendu compte que on était en présence d'un endroit qui n'était rien d'autre qu'un bagne pour appeler, qui était à cette époque-là dirigé par un sous-officier ou un officier. Je m'en rappelle encore parce que il avait un nom d'apéritif, ce mec. C'était une ordure, hein. Il avait un nom d'apéritif de 28, tu vois. Et ça veut dire que t'as un certain nombre de jeunes appelés, récalcitrants, tu vois. On peut les qualifier d'une multitude de qualificatifs, quoi. Mais ces gens-là avaient été envoyé dans ce bagne, et il est clair que, et ça je l'affirme, t'as un certain nombre de jeunes appelés qui ne sont pas morts pour la France, mais qui sont morts par la France, tu vois, qui ont été carrément assassinés dans cet endroit. Souvenons-nous-en, c'était un endroit qui s'appelait Tinfushi, je m'en souviens encore, en plein milieu du désert. Enfin, moi, je n'ai jamais cessé de penser à la fin de cet épisode, si tu veux. Il m'est même arrivé de penser à la fuite. Parce que comme tout libertaire humaniste, incontestablement, je hais l'armée comme je hais la guerre. Hein. Je ferais mienne ce que disait Albert Einstein à la circonstance et en parlant des militaires. Quand il a dit pourquoi leur a-t-on donné un cerveau puisqu'une moelle épinière aurait amplement suffi.
Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans, qui combattait en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattait en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entrée en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersée dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans, qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.
Dissonance avec Alain Guyot.
À la veille de mai 68, moi, je n'étais plus déjà étudiant. J'étais déjà ingénieur en poste et j'ai vécu mai 68 en partie à Paris. Mais je ne peux pas dire que, hormis le fait qu'effectivement j'ai rencontré Cohn-Bendit, Sauvageau, etc., 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 que j'ai un petit peu manifesté avec mes copains de la Fédération anarchiste, Si tu veux, les événements de mai 68 ne font pas encore l'objet de plusieurs chapitres de l'histoire, alors qu'ils participent de l'histoire, au même titre qu'un certain nombre de gens dont tu n'entendras jamais parler. C'est vrai que quand tu vois les personnages qui ont vécu là-dedans, tu te demandes pourquoi. Pourquoi on les ignore? Pourquoi? Bon. Il se fait que c'était comme ça. Moi, j'ai rencontré ces gens-là, mais c'était quand même. Enfin, je me souviens de soirée avec Léo Campion qui te racontait sa prise de position au moment où il s'agit de savoir si on était pour la guerre ou contre la guerre. Voir l'attitude de ces gens-là, c'est une attitude fabuleuse, quoi. Tu vois, ces gens qui n'avaient aucune prétention particulière, ces gens qui ne se seraient jamais présentés comme des maîtres de ceci ou des maîtres de cela, quoi. Mais incontestablement, dès que tu avais le moindre échange, tu te rendais compte que tu passais d'un niveau à un autre, si tu veux, tu vois, avec une connaissance, mais une connaissance fabuleuse. On avait, avec ces gens-là, tu avais le bonheur de n'être jamais d'accord sur rien. Voilà. Je voulais simplement dire qu'en ce qui concerne mai 68, je crois que de ma vie, c'est certainement l'endroit où j'ai vu le maximum d'intelligence au même endroit et au même moment. Ah oui, moi je crois que ce trésor d'imagination dont on a fait preuve en mai 68, quoi. Je pense que ça mettra des décennies, mais à l'échelle sociale. Je crois qu'il y a encore une multitude de choses qui sont en train de se construire en ce moment.
Et après 68, est-ce que c'est là que tu vas plonger dans l'énergie solaire et le renouvelable ou non, pas encore?
Oui. Pour dire que, au niveau de ma famille, donc, c'était des gens qui étaient très préoccupés par le concept même de l'énergie, mais de l'énergie en général. Mais c'était des gens qui m'avaient expliqué très tôt, si tu veux, que on avait à notre disposition une somme invraisemblable de connaissances qui n'était pas mise en œuvre parce qu'on était coincé depuis le milieu du 19e siècle par le capitalisme pétrole, parce que tu remarqueras que depuis tout à l'heure, ça fait un bout de temps que je te parle, je n'ai jamais utilisé le mot capitaliste. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu parler, si tu veux, indépendamment du fait que mon grand-père avait travaillé dans l'énergie, puisque il avait construit une raffinerie. Il n'en était pas moins vrai qu'il avait déjà un chauffe-eau solaire et une pompe à chaleur. Ce qui fait que, si tu veux, très tôt, c'est vrai que cette histoire d'énergie, ça m'avait interpellé. Dans les années 60, j'ai donc fait ma première installation photovoltaïque et solaire. Et puis après, ma vie a changé, si tu veux. J'ai quitté la Normandie et je suis venu m'installer dans l'Aveyron. Faut reconnaître que j'avais tout envoyé péter, hein. Ça veut dire que j'avais démissionné de l'administration, parce qu'au moment de mai 68, moi j'étais ingénieur à la direction régionale des télécommunications à Rouen, tu vois. Et puis là, j'ai commencé une autre vie. Il se fait que j'ai été pris d'envie de m'intéresser, de me passionner pour l'économie ou la production d'énergie qu'on appelait à cette époque-là alternative ou douce. Enfin, les terminologies avaient changé. J'ai ouvert une activité alimentaire dans l'Aveyron, quoi. Et puis, j'ai divisé mon activité en deux, une activité d'électronique et puis une activité d'économie d'énergie, ce qui fait que, par exemple, en 1979, le plus gros chauffe-eau solaire de France, il a été installé au lycée agricole à Saint-Affrique par moi, par mes IG, comme ils disent. Voilà.
Ouvrez grand vos oreilles. Vous êtes sur Radio Saint-Affrique.
Radio Saint-Affrique. 96.7 à Saint-Affrique.
C'est quoi qui justifie ce grand pas entre l'énergie solaire et les prémices de Radio Saint-Afrique, une des premières radios pirates dont tu es un des membres fondateurs?
Ouais. Alors là, c'est encore une autre aventure, là.
Une aventure que, donc, qui te doit beaucoup et qui continue encore, puisqu'on est sur Radio Saint-Afrique.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, je suis bien content de savoir que ça. Enfin, je suis bien content de constater que ça existe encore, quoi.
C'est un bébé qui a 30 ans maintenant.
Oui, 37 ans même. Oh, ben, là, je te dirais que ça fait partie de j'allais dire, de la mise en œuvre de ce besoin de culture. Si tu veux, la radio, indépendamment du fait que c'était ma spécialité, donc ça ne me posait techniquement aucun problème, tu vois. C'est vrai que j'étais aussi pleinement conscient que c'était un vecteur de transmission d'une importance déterminante. C'est au moment d'un certain nombre de mouvances, en l'occurrence celle du Larzac quand même, et puis j'avais sur place là quelques rares relations, parce que c'est vrai que sur la région centrafricaine, les libertaires se comptent sur les doigts des mains, quoi, mais pas tellement nombreux. Et donc j'avais comme parmi mes relations un garçon qui se trouvait être, je crois peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, mais enfin à cette époque-là sûrement, un gars qui faisait partie des paysans travailleurs, je crois, et qui après a été un petit peu plus du côté de la fédération anarchiste, en l'occurrence Jean Sicard. Et puis un matin, je l'ai vu arriver à mon atelier, puisque j'avais un petit atelier à Saint-Af, qui me dit il faut qu'on fasse une radio. Puis j'ai dit, écoute, on va faire une radio. Donc Jean est incontestablement l'initiateur de cette radio, et moi, il se fait que il m'a emmené dans son histoire, et que j'y ai été pour mon plus grand plaisir, hein, parce qu'il faut reconnaître que... Et alors là, ça a été aussi le début d'une aventure, parce que j'ai pas besoin de t'expliquer que... Alors déjà...
C'était interdit, les radios, ouais.
Ah oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est qu'à cette époque-là, c'était rigoureusement interdit. Donc il a fallu qu'on se débrouille à récupérer un émetteur. Alors autant que je me souvienne, c'est Jean qui avait récupéré un émetteur, un petit émetteur d'une dizaine de watts qui marchait sur une batterie, avec une antenne qui avait du gain d'ailleurs. Et on avait installé ça avec un petit mini-cassette et puis une petite tac de mixage et un micro. On avait installé ça dans son camion. Et puis on a commencé à étudier les endroits où on allait pouvoir se mettre, parce qu'on savait pertinemment bien, et ça aussi, je veux dire, en tant qu'un vieux des PTT, je savais pertinemment bien que entre l'administration et les moyens dont disposait ici l'armée et la gendarmerie, avec les triangulations banales, quoi, on pouvait être très rapidement repéré, il fallait que quelques heures. Donc, avec Jean, on s'était dit, on va se mettre à un endroit, deux jours après, on va se mettre à un autre endroit, donc il fallait qu'on étudie quand même les endroits où on allait se poser, parce qu'il fallait y aller avec le camion, fallait le temps d'installer le truc, tu vois, etc., etc., etc. Et on a commencé, alors je me souviens plus, je crois qu'on faisait, pendant quelques temps, on a dû faire trois ou quatre émissions par semaine. Alors ça, invariablement, il y avait un indicatif, c'était Radio Pirate. Alors je me souviens plus quel groupe chantait ça, mais je me souviens qu'à cette époque-là, on l'entendait partout, ce truc. Donc on ouvrait nos émissions, qui devaient durer une heure ou deux, tu vois, on ouvrait nos émissions avec Radio Pirate. Et puis alors après, des informations, je crois qu'il y avait un petit peu d'informations locales, et puis quelques considérations qu'on appellera pour la facilité, histoire de se coller des médailles hautement philosophiques. Enfin bref, c'était incontestablement, si tu veux, une espèce d'alimentation assez bien articulée de la pensée subversive, hein. C'était pas agressif. Mais en plus, il fallait qu'on soit d'une vigilance accrue, parce que c'est vrai que, soyons clairs, pour simplifier, quoi, on avait les flics au cul, hein. c'était en permanence. C'est-à-dire que les mecs, si on leur laissait le temps de nous repérer, quoi, on était coincés.
Dissonance avec Alain Guyot.
Je crois qu'une fois, je me demande si on s'était pas fait coincer. Je me souviens plus exactement de la. Ah non, mais là, c'était après ça. C'était après où j'avais été convoqué à la gendarmerie, mais là, il me semble qu'on avait déjà... il me semble que c'était après 80. On avait un statut, et on avait eu le malheur de coller des affiches, je sais pas où, quoi. Et puis, j'étais censé représenter la radio, parce que là aussi, il a fallu faire un certain nombre de manœuvres, dans la mesure où j'ai encore les premiers statuts avec la liste des membres fondateurs.
Voilà, donc après... Une fois que Mitterrand a légalisé les radios, vous avez formalisé tout ça. Vous êtes passé à un statut associatif. Alors, et c'est devenu Radio Sainte-Afrique, Radio Pirate.
Oui. Alors là, si tu veux, là encore, c'était vraiment dans l'esprit libertaire. Donc, on avait constitué une association. Tous les membres étaient présidents. Et quand on a à part entière. Là, il y a eu, si tu veux, la constitution de la radio avec tous les membres fondateurs. Alors, là, il s'est posé un petit problème parce que moi, j'étais travailleur indépendant. Et, si tu veux, je pouvais pas être à la fois, j'allais dire, partie prenante de la radio dans la mesure où j'amenais du matériel, où je fabriquais du matériel. Et faire partie du premier conseil d'administration, si tu veux. Donc j'avais demandé à ne pas être porté sur la liste. Il y a une douzaine de personnes qui ont fondé le premier conseil d'administration de la radio, sur lequel je ne figurerai nominativement, parce que sans quoi on était coincé.
Une des premières radios libres, et qui continue encore de fonctionner.
Ah oui. Là, j'avoue que quand on a fait ça, si tu veux, je pensais pas que ça durerait très longtemps. Alors, il s'est fait des trucs extraordinaires à la radio, hein, parce que là, il y a eu de tout. Mais si tu veux, il y a aussi eu du beau monde. On est forcé de le dire. Mais avec un état d'esprit, si tu veux, il y avait vraiment le désir d'un enseignement à destination de tout le monde, quoi. Et c'est vrai qu'il s'est fait des trucs extraordinaires. Moi, je me rappelle d'émissions. T'avais Dumont, par exemple, qui fait partie des membres fondateurs, qui est décédé, lui, d'ailleurs. On avait donc un gars comme Dumont, par exemple. On avait réussi à faire en sorte que le groupe, tu sais, ce fameux groupe de bon, il n'y avait pas que des libertaires, hein. Il y avait aussi des gens de tendance gauchisante, si tu veux. Là aussi, on avait le plaisir et le bonheur d'être d'accord sur rien, quoi. Donc, ça nous permettait d'avancer. Ça, c'était carrément génial, si tu veux. Là aussi, on est forcé de reconnaître, si tu veux, que les libertaires qui étaient là-dedans trouvaient quand même le moyen d'articuler un mode de pensée. Alors, bien sûr, il y a des moments où ça traînait en longueur, tu vois, dans le genre. Mais c'était, si tu veux, malgré tout, il n'y avait jamais de logomachie. Ça veut dire que c'est vrai que très souvent, la difficulté, c'est que c'était des exposés, autrement dit, si tu veux, des énoncés, qui étaient chargés de nuances. Et on s'était habitué à prendre en compte la nuance. Ça veut dire que on ne se contentait plus d'avoir simplement, encore qu'on pourrait discuter sur la caractéristique du discours et de l'intention, si tu veux, enfin, de l'énoncé et de l'intention, mais on se cantonnait plus, enfin, on avait disons que on avait vaincu nos résistances, une partie de nos résistances, et tout ce qui aurait pu être considéré comme la nécessité d'un langage à destination du recevable était converti en acceptable. Ça veut dire que, une fois de plus, à la finale, la raison prenait le pas sur le raisonnable, tu vois. On arrivait à faire cohabiter des états d'esprit qui étaient fondamentalement différents, avec des niveaux de culture qui étaient complètement différents. Tout ça pour t'en revenir, par exemple, à Dumont, qui a trouvé le moyen, quand même, pendant je ne sais combien de temps, de nous faire une émission d'une heure, qu'il avait appelé la chronique du bègue. Ça veut dire que à la radio, pendant une heure, t'avais un mec qui te faisait une émission en bégayant. Je te garantis que c'était positivement chiant, tu vois. Eh ben, il y avait quand même une émission, tu vois. Et même si effectivement ça avait, disons, initié quelques doutes chez certains d'entre nous, il n'y avait pas eu de refus systématique, tu vois. Donc, t'avais un truc comme ça. T'avais un garçon comme Nils Holz. Lui, il faisait pas partie des membres fondateurs. Eh ben, voilà un gars qui, à Radio Sainte-Afrique, eh ben lui, quand même, sans que ça paraisse, voilà une petite radio où on se permettait de faire une heure d'anglais. Ça veut dire qu'il donnait des cours d'anglais à Radio Sainte-Afrique. Tu vois, je veux dire, l'état d'esprit...
Côté université populaire.
Hein. Voilà. Avec l'état d'esprit, tu vois, du genre, on est là pour partager les choses, quoi. Il faisait une heure de, et puis une heure de grande musique, de la grande musique. Et alors, bon, c'est vrai que quand je t'en lirai tout à l'heure une partie, mais quand tu vois les premiers statuts, c'était sacrément ficelé, quand même. Hein. Tu sais que, hormis tout ce qui pouvait être pour nous, l'impossibilité de laisser passer la xénophobie, le racisme, le reste, quoi. C'était vraiment un appel à tous, tu vois. Tout ce qui jalonne, si tu veux, la vie d'une expérience fabuleuse qu'est cette expérience de transmission du savoir, de l'info, tu vois. Etc, etc,
c'est
etc.
Plus qu'une expérience, Alain, c'est une réalisation, puisque la radio existe toujours, qu'elle a 37 ans, et ton nom est bien accolé à Radio Sainte-Afrique, mais c'est aussi accolé à la lutte contre le fichage des enfants, et notamment au dépôt de plaintes que tu as initié auprès des parents d'élèves en France.
Ah oui, alors là, c'est encore une autre aventure, ça. C'est encore une autre aventure. C'est tous ces endroits où,
Mais c'est lié à ton souci de liberté aussi.
Oui. Puis alors j'aime bien quand il y a des trucs comme ça, des espèces de trucs qui en fait participent d'alimentation retournée. Tu sais les trucs parce que comme disait Debord, dans un monde comment il disait déjà. Dans un monde à l'envers, même le vrai n'est qu'à l'instant du faux, tu vois. Et j'aime bien utiliser ce genre de paradoxe. Et comme je suis très très attaché à la liberté, bien sûr, quand je me suis retrouvé pour des raisons X et Y. Confronté à cette histoire de fichage, si tu veux, là les yeux me sont sortis de la tête, quoi. Je me suis dit bon, là il faut y aller. Je suppose que tu veux parler de toute l'histoire de bas élèves. Alors là, bon, là ça a été une aventure.
Oh!
Dissonance avec Alain Guyot. Quel regard portes-tu sur la réflexion libertaire et anarchiste qui fait ce que tu es ?
Pour être complètement fidèle à ma pensée anarchiste, rien de ce que je vais dire, hein, mettons-nous bien d'accord, ne constitue une vérité définitive. Bon. Le milieu d'où je viens faisait cohabiter dans un équilibre remarquable la subversion, la réflexion, la tolérance et la culture, en précisant que la tolérance dont je pourrais faire preuve ne consiste pas à tolérer l'intolérance. Hein. Chacun ayant le droit, si tel est son bon plaisir, de réduire son identité à une appartenance. Mais par contre, nul n'a le droit de s'ériger en modèle obligatoire et de contraindre. Donc, je dirais, pour formuler un petit peu plus ma pensée, si tu veux, qu'un groupe où l'on entre et d'où l'on sort librement ne me dérange pas. Mais je me battrai volontiers contre le groupe qui enferme et qui contraint. Car enfin, il me paraît évident que dans l'espace de ce groupe, la liberté devient rapidement un mot creux dès lors que la possibilité de choisir n'est plus à la portée de tous. On est bien d'accord. L'avenir, c'est dans le dépassement du réflexe. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Je me souviens d'un petit cadre au-dessus de mon lit d'enfant où il était écrit « C'est en cherchant l'impossible que l'homme a toujours réalisé le possible. Ceux qui se sont sagement limités à ce qui leur paraissait possible n'ont jamais avancé d'un seul pas. » Dixit Michel Bakounine. Étrange, n'est-ce pas? Cela me rappelle effectivement, étrangement, le « Soyons réalistes, demandons l'impossible » de mai 68. Et souvenons-nous de l'irrationalisme, c'est-à-dire de ce qui n'est rien d'autre qu'une représentation qui dévalorise la raison et valorise l'instinct, et qu'il ne s'agit pas du seul élément qui compose le terreau du totalitarisme et de tous ces pays et régimes totalitaires où la liberté n'est pas niée, mais où elle est inexistante. Un modèle du double langage où nous nous reconnaissons comme libres, mais nous avons l'obligation de ne pas utiliser cette liberté. Je finirai. Réfutons ces époques où la notion de responsabilité est soumise à l'évaluation des bienfaits et des torts, le tout réduit à un contemporain. Or, lorsque nous disons une personne, nous entendons un individu, c'est-à-dire la plus petite partie du groupe, la plus petite parce que indivisible, d'où son nom d'ailleurs, individu, mais semblable aux autres. Au moins quant à l'essentiel, le libertaire pose ainsi la question: que contient l'essentiel ? Peut-être l'utopie. Cette porte étroite qui, à mes yeux, toujours, rien qu'à mes yeux, certainement, cette porte étroite qui permet l'entrée dans la réalité, et aussi la porte qui sépare le rêve du possible. Qui peut répondre de ces actes ? Réponse. C'est la mienne, hein ? Ça n'engage que moi. La réponse, c'est le sujet disposant de son libre arbitre. Souvenez-vous cependant que lorsque la mémoire est en conflit avec l'amour-propre, c'est toujours l'amour-propre qui a le dessus. Pour finir, parce qu'il faut une fin à tout, j'ajoute que j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre positivement à ta demande, Joseph, pour m'exprimer sur Trade Radio, à laquelle j'ai participé à la création, bien sûr, il y a 37 ans. Aussi, et là pour le coup je l'ai écrit, je terminerai en te disant ceci. Il est créateur de croire l'homme perfectible et de préparer l'avènement d'une société fraternelle, au sein de laquelle nul ne vivra au détriment d'un autre. Pour cela, toujours à mes yeux, il faut regarder vivre et se regarder vivre, s'indigner à cause des injustices, s'étonner, s'émerveiller, se surprendre, s'interroger, douter et souffrir du doute, être certain et se méfier des certitudes. L'utopie, à laquelle nous ne pouvons renoncer sans mourir, se dit simplement l'homme cesserait de se comporter comme un prédateur. J'ai dit avec mes excuses, j'ai été un peu long, et pourtant, si tu savais, j'ai encore 1000 choses à dire. J'ai dit.
Merci beaucoup, Alain.
Vous trouverez sur la page Dissonance du site de Radio Centrafrique un lien vous permettant de réécouter cette émission. Vous y trouverez aussi, sur la même page, la liste des musiques entendues. Cette émission sera rediffusée sur nos ondes mercredi 24 octobre à 14h et enfin samedi 27 octobre à 16h. Vous pouvez aussi bien entendu la télécharger depuis notre page internet pour l'écouter à votre guise.
Salut
et fraternité.
La vie, ça tient dans une paume, ça résonne comme un psaume, mais ce n'est qu'une java. La vie, à peine est-elle éclose, on dirait une rose, mais ce n'est qu'un dahlia. La vie, même si tu la bourres de rêves et d'amour qui n'en finissent pas. La vie, même si pour l'enfance c'est plus beau que Byzance, c'est toujours Carpentin. La vie, ça n'a pas de ressources, c'est pas coté en bourse comme l'or et talons. La vie, ça se débine en douce à la vie comme je te pousse au détour d'un avion. La vie, si tu la perds, pas besoin de demander le chemin, la rue des Morillons. La vie, on croit que c'est pépère, bien planqué à l'arrière, c'est toujours sur le front. La vie, pas le temps de faire des projets, à peine même si je le temps d'être rossignol. La vie, on te la donne, on te la reprend, comme un jouet d'enfant, une divine babiole. La vie, c'est un bout de répit qui couve au bain-marie dans une drôle de casserole. Et la vie, c'est la supercherie d'un Jupiter aigri, d'un dieu à camisole. La vie, ça ne tient qu'à un fil, ça se joue à face ou pile, pour des profits et pertes. La vie, ça se sauve, ça s'épargne, dans les caisses d'épargne, des guerres qu'on déserte. La vie, moi je la revends.